Eh bien, bonjour. Nous sommes donc ici pour parler avec Jean-Bernard Maugiron, essentiellement de son dernier livre, qui s'appelle « Du plomb dans le castin ». Je vous présente Jean-Bernard Maugiron, qui, à défaut d'être un gamin, est un jeune auteur, qui en est à son deuxième livre. Le premier s'appelant « Les passes de Cordouan », qui est apparu aux éditions de la Dame Jeanne, si je ne m'abuse, et qui raconte une expérience qui semble assez personnelle, et le livre a une dimension assez autobiographique, je crois, une expérience de navigation assez décalée, pleine d'humour, d'un marin en herbe, si j'ose dire, sur l'estuaire de la Gironde essentiellement, et un tout petit peu en mer ou débouché, si je ne m'abuse. Après ce premier livre, donc, qui est donc un récit, Jean-Bernard Maugiron a écrit un roman, Du plomb dans le castin, qui est écrit à la première personne, mais où, sans doute nous précisera-t-il sa position, la dimension autobiographique paraît beaucoup plus éloignée. Cela dit, Jean-Bernard Maugiron est correcteur de presse au journal Sud-Ouest, et le héros de ce livre est un correcteur, donc... dans un grand quotidien régional. Donc, nous allons voir cela avec lui tout à l'heure. Pour commencer, peut-être convient-il que Jean lise un extrait de son livre, ce qui nous mettra peut-être dans le bain.
Bonjour et merci d'être venu si peu nombreux. C'est la première fois que je prends la parole en public, donc ça va peut-être me faciliter un petit peu les choses d'être en présence amie. Je vais vous lire, pour mettre un peu en voix et peut-être un peu à l'aise, le début du chapitre 6. Je travaille de nuit comme correcteur de presse dans un grand journal régional. Ce n'est pas mon brevet puisque je suis linotypiste de formation. Alors ils m'ont mis à la correction des carnets. Je passe la plus grande partie de mon service de 6 heures à relire des faire-part de naissance, d'anniversaire, de baptême, de communion, de mariage, de noces d'or, de diamants, de perles, de coton, d'argent et de toutes sortes de matières. Ça, c'est les événements heureux qui en ont un cadre tramé, ou les avis d'obsèques ou de décès, les souvenirs, condoléances, remerciements, c'est les événements malheureux qui peuvent aussi être accompagnés d'une photo qui doit être centrée sur une colonne mais décentrée sur deux, ou d'une croix en haut à droite avec l'adresse des pompes funèbres en italique centrée en pied. Il faut vérifier tout ça, l'orthographe et aussi les graisses, les capitales, la justification. On dirait pas, faut penser à plein de choses en même temps, c'est fatigant pour la tête et pour les yeux. Et comme ça coûte cher aux clients, on a intérêt à ce qu'il n'y ait pas de coquilles. Sinon, ils peuvent exiger un rectificatif, un remboursement ou une reparution. C'est les clavistes d'à côté qui saisissent les textes. De vraies gourdes qui font plein de fautes. À croire que c'est exprès pour m'énerver. Du coup, je me suis fait un pense-bête avec celles qui reviennent tout le temps. Comme dans « N'oublie pas », elles mettent toujours un S à l'impératif alors qu'il n'en faut pas. Ou des témoignages que nous avons reçus. Là, au contraire, il faut un S à reçu. Parce que « témoignage » est placé avant, on ne me la fait le plus. Une fois, ces buses m'ont fait une mauvaise crasse. Entre deux carnets, je suis tombé sur mon propre avis d'obsèques. Avec ma photo en plus, je ne sais pas où elle l'avait trouvée. Les clavistes du journal et le service de la correction ont la douleur de vous faire part de la brutale disparition de leur collègue Victor R., écrasé par un train de collection pendant qu'il faisait la sieste sur la voie ferrée. Les obsèques auront lieu dans la salle des pas perdus dès qu'on aura retrouvé tous les morceaux. Ni fleurs, ni couronnes, des locomotives miniatures. Ça m'a quand même fait froid dans le dos, surtout l'histoire des morceaux. Mais j'ai corrigé normalement mon avis d'obsèques, comme si de rien n'était. Ça les a bien feintés, les poufias. Évidemment, c'est pas passé dans le journal le lendemain. Heureusement, il y a parfois des messages marrants, des petits clins d'œil de la famille ou des copains, comme pour les anniversaires. Marcel a dépassé les 75, ça vaut bien un canon. Hé, Juju, pour tes 51 ans, n'oublie pas le pastis. Ça repose des morts. Souvent aussi, on trouve des noms pas possibles, mais vraiment vrais. Là, je fais rire toute la galerie quand j'annonce la naissance du petit Max Hilaire, la communion d'Yvan Dubois, le mariage de Monsieur de Moncu avec Madame Pourchienne et Lurine, ou les fiançailles de Monsieur Belleverge avec Madame Jolicon, ça s'invente pas. Après parution, je découpe les annonces et je les garde dans une chemise en carton. J'en ai toute une collection. Ce serait bien de les publier un jour, j'en parlerai au gars du marbre en leur envoyant mon article, si jamais il leur reste un peu de place. Toutes les heures, je fais une petite pause. Je traverse le bateau et je vais fumer une cigarette dans le local fumeur derrière les roteaux ou sur la petite terrasse à côté des extracteurs quand il fait beau, parce que maintenant, on n'a plus le droit de fumer dans l'atelier. Bientôt, on ne pourra plus rigoler non plus. Je passe voir Lulu derrière sa rotative et si tout est bien calé, il a le temps de venir en griller une avec moi. Ça lui fait du bien aussi de quitter un moment sa machine infernale. Partout dans l'atelier et jusque dans les étages de la rédaction, on sait qu'on a commencé à imprimer les premières éditions à cause des vibrations. Lulu dit qu'il vibre encore dans son lit 2 heures après avoir quitté la boîte. C'est l'inertie. N'empêche, il a de la chance, lui. Il a plein de choses intéressantes à voir. Comme dit Pascal, qui a fait son service dans la marine, la salle des roteaux, vue d'en haut des galeries, c'est un peu comme la salle des machines d'un navire. C'est très bruyant, alors beaucoup portent des casques anti-bruit, sauf ceux qui sont déjà sourds. Moi, je resterai des heures à regarder le grand ruban blanc tourner à toute vitesse dans les rouleaux et ressortir imprimé, avec les gros titres, les colonnes et les images. On a à peine le temps de les voir, tellement ça va vite. Après, il est coupé, plié, et les journaux tout prêts à lire passent au-dessus de nos têtes sur le grand 8, une chaîne à pinces qui les amène directement au service des expéditions où les attendent les camions. En sautant, on arrive à attraper un exemplaire encore tout chaud qui sent bon l'encre et le papier. Parfois, le ruban se déchire dans les rouleaux, alors c'est la panique. Il faut vite éteindre les roteaux, enlever à la main l'énorme tas de papier qui s'est formé et recommencer à zéro. Ça énerve tout le monde, surtout les cadres qui ont des obligations de rendement pour toucher leur prime de fin d'année. Mais ça aussi, l'année prochaine, c'est fini. Les roteaux vont déménager dans un nouveau centre d'impression de l'autre côté du fleuve, au milieu d'une zone industrielle, bonjour l'ambiance. Je suis allé le visiter, en soirée dans un hôpital. Voilà pour l'extrait. Je vous signale quand même que cet hôpital, on peut le visiter. C'est le nouveau centre d'impression de Sud-Ouest qui se trouve quai de Brazza. Vous appelez Sud-Ouest et de 10h30 à minuit, on vous fera une petite visite guidée. C'est toujours intéressant de voir se fabriquer un journal, même si on a l'impression d'être un peu dans une centrale nucléaire devant ces gros réacteurs bruyants.
Bien. Merci. La première chose que j'ai envie de te demander, tout de même... puisque nous avons, si je ne m'abuse, le même âge, tu as publié donc les Passes de Cordouan il y a 2 ans. Tu viens de publier donc Du plomb dans le castin. Je ne sache pas lors de nos discussions que tu aies eu, que tu aies écrit auparavant. Qu'est-ce qui t'a conduit vers l'écriture ? Dans les Passes de Cordouan, on peut penser tout d'un coup que c'était une expérience personnelle. Là, c'est encore un milieu que tu connais de près, puisque c'est ton milieu professionnel. Est-ce que... Enfin, j'aimerais bien savoir ce qui t'a conduit vers l'écriture.
J'écrivais dans ma tendre enfance, dans mon adolescence un peu mouvementée, mais c'était plutôt des pamphlets révolutionnaires à cette époque-là. J'ai une trentaine d'années ensuite, j'essayais d'imiter des auteurs que j'admirais, mais je faisais que du mauvais plagiat de Bord, Céline, ou ensuite des grands stylistes que j'admire, mais ce n'est pas mon style d'écriture. Donc là, oui, ce qui m'a motivé, c'est peut-être la cinquantaine qui est arrivée, qui est passée. Tu as connu cette étape-là également. Et moi, je n'ai pas d'enfant, donc... Je lui ai dit que si je voulais laisser une petite trace de mon passage sur Terre, il était temps de commencer à m'y mettre. Donc je t'ai dit, je ne suis pas un grand styliste. Ce que je peux faire, à mon avis, c'est une littérature de l'ordre du témoignage. Donc à partir de ce que je connais, et surtout de ce que je connais bien, donc j'ai attendu d'avoir navigué pendant plus de 20 ans sur l'estuaire de la Gironde. Enfin, j'en suis quand même un petit peu sorti.
Oui, pour je refaire. Sais. Je sais.
Pour décrire ces ports, ces ambiances, et un peu un moment d'initiation d'un jeune marin qui doit sortir de l'estuaire, affronter ses peurs pour gagner la mer. Oui.
Là, tu as quand même franchi un pas, si j'ose dire, parce que effectivement, je comprends très bien ce que tu dis à propos de ton premier livre, qui est un récit où effectivement, même si il y a forcément, l'écriture impose un tout petit peu de prendre certaines libertés avec, disons, la vérité factuelle pour rejoindre une vérité sans doute plus profonde. On est quand même au plus près de Jean-Bernard Maugiron s'exerçant à la dure condition d'homme de mer.
Bon. Sans aucun doute.
Là, tu as quand même franchi un pas parce que tu passes au roman et... Pour quiconque te connaît, de toute façon, enfin, même pour qui ne te connaît pas, la lecture du texte, on voit bien, enfin, de toute façon, qu'il est impossible que l'auteur du livre soit le héros qui pourtant écrit un article. Mais bon.
Effectivement.
Donc, Donc tu as pris du recul par rapport à tes premiers textes
du recul, oui, sans doute énormément.
Dans ton rapport à la littérature, enfin à l'écriture en tout cas.
Oui, là je me suis amusé, je passais sans doute, comme tu dis, un nouveau stade, puisqu'il s'agit de la création d'un personnage. Ouais. Quand il s'agit de savoir pourquoi on écrit, chacun ses motivations. Moi je crois que c'est pour compenser une infirmité, parce que je ne sais pas chanter, je ne sais pas danser, je ne sais pas jouer d'un instrument de musique, je ne sais pas jouer de la comédie. Donc l'écriture, c'est peut-être le moyen, par la création de personnages, d'arriver à exprimer quelque chose de moi dans une certaine forme. D'ailleurs, avant d'écrire et de créer le personnage de Victor, j'ai lu le bouquin de Stanislavski, tu sais, la formation de l'acteur. Ça m'a pas mal aidé, ouais. pour rentrer dans la peau d'un personnage qui est, comme tu dis, très, très loin de moi. Je l'ai choisi presque à l'opposé. Ouais. Et c'était un des grands intérêts de ces moments d'écriture, d'arriver à trouver la voix, à rentrer dans la peau, et de tenir cette voix sur la durée également, pour créer un personnage cohérent et qu'il soit sur la durée du roman. Je ne sais pas si j'y suis arrivé.
Oui, si, à mon avis, bien sûr. Et ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, il faut le préciser, le héros, qui s'appelle donc Victor, est un correcteur dans un grand journal... dans un grand journal d'information. On comprend vite, je crois que c'est dit, attends, la phrase, est-ce qu'il dit que c'est un journal régional ?
Oui, je suis correcteur.
Oui, je travaille comme correcteur de presse dans un grand journal régional. Bon. Donc ce héros est extrêmement haut en couleur, je ne sais pas, oui, enfin d'une certaine manière. En tout cas, il est sérieusement atteint, on va se rendre compte assez vite. Et c'est assez drôle parce que ça a un peu, comment dire, teinté la perception que les gens ont eue de ton livre à travers les réactions que j'ai pu lire. Dans la presse, qui a rendu compte de ton livre, oui. Il est souvent question. D'abord, les gens se sont intéressés beaucoup à l'aspect métier du livre, etc. D'ailleurs, au prix de quelques confusions, tu vas nous expliquer un peu ce que c'est que la correction, ce que c'est que ceci, ce que c'est que cela, parce que manifestement, ce n'est pas évident pour tout le monde, puisque les journalistes, qui normalement devraient le savoir et qui ont fait des articles là-dessus, ont un peu confondu les divers métiers dont tu parles.
Tout à fait, oui.
Donc, ton héros étant quand même quelqu'un d'atteint du point de vue... enfin, qui sombre dans la folie, disons-le franchement, au cours du roman, ça donne une teinte un peu, ça donnait un peu une teinte crépusculaire, oui. à la perception qu'ont les gens. Et on a vu enfin, je crois que c'est la quasi-unanimité chez les journalistes qui ont rendu du livre, d'une part un côté extrêmement louangeur quant au livre, mais d'autre part l'impression. Tous disent grosso modo que c'est un adieu au métier du livre, etc. etc. On a l'impression que ton héros, d'une certaine manière, par son caractère aussi, accentue l'impression de fin d'une époque. Enfin,
oui, fin d'une époque, sans doute, fin d'une civilisation, peut-être, enfin, sans être grandiloquent, oui, c'est peut-être celle de l'écrit aussi qui disparaît. J'ai lu qu'on disait que j'annonçais la fin de l'imprimerie ou de la classe ouvrière, c'est aussi là un peu plus. Trop prétentieux, je pense que l'imprimerie va continuer. Il n'y a qu'à voir tout ce qui se publie et qui encombre les librairies. Crépusculaire, peut-être, mélancolique, sans doute, oui. Je parle d'une littérature de témoignage tout à l'heure, et bon, témoigner aujourd'hui, c'est témoigner de ce qui disparaît, de ce qu'on a aimé. Donc, effectivement, il y a une tonalité mélancolique que tu peux trouver dans les passes de Courdeman aussi, qui est accentuée là dans ces descriptions de fin d'une certaine tradition de travail, d'un savoir-faire, d'une communauté d'hommes au service d'un projet commun. Ce qui a déclenché l'écriture de ce livre, c'est le déménagement du journal Sud-Ouest il y a un an, des locaux historiques qui sont à quelques pas d'ici, vers la rive droite du fleuve où nous sommes aujourd'hui, dans un immeuble flambant neuf, tout en vitre, mais... Sans âme. À Guiraud.
Je précise que Guiraud, c'était l'ancien siège de Sud-Ouest, où, excuse-moi, je t'interromps, mais parce que donc dans le Bordeaux historique, juste derrière la rue de Chevreuse.
À deux pâtés de maison de la librairie Mola, à Bordeaux.
Voilà.
Où on a imprimé des journaux depuis 1859. C'était la Gironde à l'époque, puis la Petite Gironde, puis à la Libération Sud-Ouest. Et nuit et jour, on travaillait dans cette ruche, tous les corps de métier, de la rédaction, la correction, la mise en page, les linotypistes, les expéditions. Les camions venaient dans le centre de Bordeaux. C'est vrai que c'était pas très pratique pour ensuite aller livrer les journaux dans tout le sud-ouest.
Ce qui fait que par exemple, l'ambiance était assez drôle. Toi, tu es arrivé.
Moi, je connaissais un petit peu.
Voilà, à l'époque où les rotos tournaient, on avait cette espèce de chose assez étonnante de voir quelquefois alors le personnel de la direction avec le PDG même qui passait par là, qui était Jean-François Lemoine, donc des cols blancs typiques, voire de grands capitalistes. Des journalistes de tout genre, je veux dire, allant depuis du reporter, parce que Sud-Ouest avait une certaine tradition de reporter, jusqu'à des gens plus classiques, des jeunes, etc., mais disons également du côté des cols blancs, une population ouvrière par définition, mais les correcteurs, les metteurs en page et tout, qui sont une population ouvrière un peu spécial dans la mesure où ils n'ont pas les mains noires, d'une certaine manière, et en même temps les rotativistes qui passaient par là, qu'on croisait dans les couloirs, et qui étaient eux en bleu de travail, quelquefois avec la clé à molette qui dépassait de la poche. Tout ça se coudoyant. Et c'est vrai que c'était quelque chose de...
Voilà, moi je suis arrivé un petit peu après toi, donc j'ai pas connu cette ambiance-là. Les rotos étaient partis déjà depuis 3-4 ans, mais il restait les... Les rotos n'étaient pas partis, en fait, c'était resté le système d'impression avait été déménagé dans des rotos bien plus modernes. Donc on avait toutes les traces, ces grandes salles de ville où étaient avant arrimés les linotypes aussi, des vieilles photos, les douches pour les ouvriers. Moi je me baladais pendant les pauses dans ces grands couloirs, dans ces pièces. Dans ces pièces devenues désertes, et à chacun des départs en retraite. Il y en a eu pas mal ces dernières années avec les plans sociaux. J'interrogeais les anciens qui venaient pour chanter un dernier ala avec nous.
Alors un ala, tu nous expliques un mot ce que c'est, parce qu'il faut que les gens comprennent tout de même. Je vois que dans le public, on nous propose d'en chanter un, mais
on va peut-être pas...
Vu le nombre de chanteurs et la qualité, je veux dire, de leur organe, on va peut-être s'en dispenser.
Le ala, c'est le début d'une chanson traditionnelle lors des tasses ou des pots entre ouvriers du livre. Qui se chante, qui est à page 27-28 de...
Tu l'entends?
Non, vas-y, toi, si tu veux. C'est un hommage, un pot à la santé du confrère qui nous régale aujourd'hui. Ce n'est pas de l'eau de rivière, encore moins de celle du puits. À la santé du confrère qui nous régale aujourd'hui. Pas d'eau, pas d'eau, pas d'eau.
Surtout, c'est vrai que sans la musique, c'est triste. Hein.
Surtout pas d'eau. et surtout sans le verre.
Et surtout uniquement avec l'eau.
Bon. Donc, oui. Dans l'idée d'une lettre de témoignage, je voulais sauvegarder ces dernières traces d'une activité ouvrière dans ces locaux avant qu'ils soient livrés aux bulldozers et aux promoteurs, puisque à l'emplacement du journal Sud-Ouest qui marque tout un pâté de maisons à Bordeaux, on va voir. Un joli ensemble moderne de bureaux, de commerces, comme on savait bien faire aujourd'hui. Donc sauvegarder, ces ambiances, un petit peu du vocabulaire aussi, des métiers du livre, les dernières expressions qu'on utilisait au XIXe siècle et jusqu'à la fin des années 70, puisqu'on composait encore au plomb... jusqu'en 79, je crois, avant de passer à la photocomposition. Donc il y a tout un argot du métier qui n'a pas varié pendant deux siècles pratiquement, ouais. Que j'ai retrouvé dans un excellent livre qui s'appelle Le dictionnaire de l'argot des typographes d'Émile Boutny, publié en 1860, donc d'où j'ai tiré la majorité des expressions dont j'ai truffé ce petit livre. Tu vois, aller en Germanie, ouais. L'article 4, verset 20, toutes ces choses-là, ouais. dont j'avais entendu parler aussi quand je travaillais dans les castins parisiens, où la tradition avait peut-être survécu un peu plus longtemps.
Oui, alors on va voir. Je vais donner une définition, puisque le héros est un correcteur. Tous ces déboires viennent au début du fait qu'il n'est pas un correcteur professionnel. On l'a balancé, si j'ose dire, à la correction, parce que son métier de typographe, de linotypiste.
Oui, il était linotypiste de formation, oui, comme voilà. Son père.
Il n'existe plus, et donc il se retrouve au Castin, qui est le bureau des correcteurs. Pour vous faire une petite idée de ce qu'est le correcteur tel qu'il se, de ce que sont les correcteurs tels qu'ils se conçoivent et qu'ils se définissent eux-mêmes, je vais vous lire la définition qu'en donne la lettre adressée à l'Académie française par la Société des correcteurs des imprimeries de Paris, qui date de 1868, mais qui, à mon avis, est assez fort satisfaisante.
Et qui est page 44 de Montilivre. C'est gentil,
oui, voilà.
C'est gentil de citer la.
Et qui est seul
qui est paragraphe donné... qui n'est pas de moi.
Non, j'en ai relevé d'autres qui vont venir juste derrière à propos de questions que j'ai à te poser. Mais là, c'est pour simplement pour clarifier les choses. Donc, les fonctions. Bon, on se doute qu'un correcteur corrige, si vous voulez. Tout le problème étant de savoir ce qu'on entend par corriger. Non. Les fonctions de correcteur sont très complexes. Reproduire fidèlement le manuscrit de l'écrivain, souvent défiguré dans le premier travail de la composition typographique, ramener à l'orthographe de l'Académie, c'est un peu de lèche ça, mais ramener à l'orthographe de l'Académie la manière d'écrire particulière à chaque auteur, donner de la clarté au discours par l'emploi d'une ponctuation sobre et logique, rectifier les faits erronés, des dates inexactes, des citations fautives, veiller à l'observation scrupuleuse des règles de l'art, se livrer pendant de longues heures à la double opération de la lecture par l'esprit et de la lecture par le regard, sur les sujets les plus divers, et toujours sur un texte nouveau, où chaque mot peut cacher un piège, parce que l'auteur, emporté par sa pensée, a lu, non pas ce qui est imprimé, mais ce qui aurait dû l'être. Telles sont les principales attributions d'une profession que les écrivains de tout temps ont regardée comme la plus importante de l'art typographique. La dernière phrase est d'un optimisme, enfin sans doute justifié à l'époque où il a été écrite, c'est la seule, grosso modo, qu'on peut mettre peut-être en doute aujourd'hui dans le monde tel qu'il va. Pas tellement d'ailleurs du fait des écrivains qui n'en veulent pas spécialement aux correcteurs, mais les éditeurs oui, puisque c'est une source de dépenses, et les directeurs de journaux, n'en parlons pas. Ils sont devenus grosso modo des marchands de papier, donc on peut se demander quand on y travaille s'ils se soucient vraiment de ce qui est marqué dessus. Et voilà pour la correction. Donc.
Oui, c'était évidemment un de mes soucis principaux aussi dans cette idée de témoigner, c'était de parler de mon métier de correcteur, métier que j'exerce depuis une vingtaine d'années maintenant. J'ai commencé à travailler dans la photocomposition. À l'époque, on pouvait rentrer en se formant sur le tas. Puis, en allant travailler à Paris dans la presse hebdomadaire, puis dans Land Edition, avant de revenir à Bordeaux, m'installer à mon compte et donc d'être recruté par Sud-Ouest. Métier qui est mal connu, mal aimé souvent et en voie de disparition malheureusement. Donc là aussi, je voulais dresser un petit tableau de ce métier qui a quand même plus de 3 millions si on considère que dès que l'écriture a été codifiée, il a fallu des correcteurs pour vérifier si la copie était conforme à l'original.
Il semble qu'il en existait à l'époque.
Sur les tablettes d'argile.
Sur les tablettes cunéiformes.
Oui,
c'est ça.
Oui, on retrouve des signes de correction sur des papyrus égyptiens également. Quand, tu sais, ils venaient à Alexandrie des bateaux dont à chaque fois les copistes s'emparaient de tous les ouvrages à bord pour en faire une copie. Des fois, ils gardaient l'original d'ailleurs, ils rendaient de la copie. Et il y avait ce qu'on appelait des diortotes à l'époque qui étaient chargés de vérifier la conformité du texte par rapport à l'original. Donc c'est un très vieux métier qui date d'avant l'imprimerie même, qui date donc de l'écriture dès qu'elle a été réglée avec ses règles qu'il fallait respecter.
Alors, je vais lire un autre petit passage qui commence à peu près comme les 10 premiers chapitres, puisque le livre est en fait, normalement, l'essai de manuscrit du héros, qui va partir à la retraite, et à qui une déléguée du personnel a demandé de rédiger un article pour le journal du syndicat sur son expérience professionnelle, parce qu'il a quand même des années de pratique et que donc on veut recueillir cela. Donc il cessait à l'écriture, il est correcteur et écrivain, et il recommence régulièrement. Donc on a ensuite l'histoire s'emballe, mais tout au début, pendant les 10 premiers chapitres, voilà. Il recommence par la même phrase qui dit « Je travaille de nuit comme correcteur de presse dans un grand journal régional ».
Ce sont ces tentatives successives pour arriver à écrire l'article.
Voilà. Oui. Et là, c'est assez intéressant parce que je voudrais savoir ce que tu en penses. Je voudrais savoir si c'est la réalité encore aujourd'hui, si c'est une réalité parisienne, si c'est une réalité dont tu penses qu'elle est générale. C'est la teinte politique un peu de tous ces gens-là. De tous ces métiers du livre, et qui étaient où le syndicalisme est très marqué, mais avec des couleurs qui peuvent paraître, disons, au moins un camailleux dans les.
Oui, c'est la phrase où je parle des correcteurs anarcho.
Voilà,
des...
c'est comme je vais sur mes 45 ans, sur mes 55 ans, je me prépare à partir en pré-retraite, même si je n'ai pas toutes mes annuités. On a des avantages, nous, les ouvriers du livre. Mmh. On a toujours été solidaires. Même si on aimait bien rester entre nous, traditionnellement, les rotos étaient plutôt cocos, les typos gauchos, les correcteurs anarchos. Alors, souvent, ça fritait lors des réunions d'équipe ou d'état syndical. Cela dit, quand on décide la grève, on la fait tous ensemble. De toute façon, les correcteurs tout seuls ne peuvent pas arrêter le journal. La direction s'en fiche qu'ils sortent pleins de fautes. Mmh. Il se vendra quand même. Les plus forts, c'est quand même les rotos pour bloquer la machine. Le lendemain de la grève, la direction fait paraître un petit encadré à la une, du genre « Nous prions nos fidèles lecteurs de bien vouloir nous excuser pour la non-parution de leur journal préféré à cause d'un arrêt de travail injustifié de certaines catégories du personnel, etc. » Comme ils n'aiment pas trop ça, on est plutôt bien payé et on a pas mal de vacances. Pendant la grande grève aux Parisiens, on a tous donné 10% de notre salaire aux collègues grévistes pendant près de 2 ans. Les plus costauds de la section participaient à des rodéos nocturnes pour intercepter les camions et détruire les journaux fabriqués en loose day par les jaunes. Ils rentraient tout fiers au petit matin en bombant le torse devant les clavistes en pamoison. Ça valait toutes les décorations, ces actions d'éclat. Alors ça, est-ce que... c'est de l'archéologie c'est...
Oui et non. Il y a une très vieille tradition anarcho-syndicaliste chez les ouvriers du livre. Comme je le cite en début d'ouvrage, je crois, en 1830, ce sont eux qui ont lancé la révolution, tous les typographes. Mm-hmm. Dans le syndicat des correcteurs, tu trouves encore aujourd'hui, dans l'article premier de leur statut, une mention à la charte d'Amiens, c'est-à-dire à l'abolition du salariat.
Ouais.
Rien de moins.
Oui, c'est quand même pas mal. Oui. Cela dit, est-ce que c'est une réalité qui imprègne encore les correcteurs tels qu'ils travaillent?
Moi, je l'ai connu à Paris, autour du syndicat des correcteurs, où il y a aussi pas mal de bisbilles internes dans les diverses tendances de ces milieux libertaires, ultra-gauche, gauchistes, tout ça. Mais en province, on ne sent plus ces tensions-là. Bon, il faut quand même dire que les milieux de la presse sont toujours très fortement syndicalisés et que les grèves y sont très suivies et très importantes.
Alors, ton livre rend effectivement une. Enfin, présente. Rend parfaitement compte enfin, de ces réalités-là. Il y a des passages qui sont assez drôles, toujours sur ces rapports. À l'intérieur des métiers du livre, ou en tout cas à l'intérieur du journal, puisque ça va un peu plus loin, il y a un passage que j'aimerais bien. Lire à propos des relations entre l'ensemble entre les correcteurs et les autres travailleurs du livre, puis la rédaction, qui est donc encore autre chose, et qui est assez torché, que j'aime au sens de bien torché, et que j'aime bien. Il faut savoir que le surnom des correcteurs, c'est souvent, c'est resté les académiciens dans un journal. Et quand les journalistes viennent poser des questions, quelquefois de grammaire, enfin de concordance des temps, ou de problèmes de majuscules ou de minuscules, handicap ou bas de casse, en langage correcteur, les typographes en général, de toute façon, ils disent assez souvent « bonjour l'académie, salut les académiciens », enfin bon, c'est souvent... C'est encore...
Pour nous chambrer, oui.
Voilà, pour nous chambrer. Donc voilà ce que dit le héros, se rappelant l'époque où il n'était pas encore correcteur. Donc, où il était donc typo. Qu'est-ce qui nous en faisait baver, les académiciens ? C'était nos bêtes noires, à nous, les typos, toujours à traquer la coquille pour faire les intéressants. Et nous devions casser des lignes pour un accent ou une virgule. On l'appelait l'alarme du compositeur, ça doit être pour ça. Vraiment, ils exagéraient. Je sais bien que pour un point, Martin perdit son âne, mais bon, ça ne sert plus à rien de faire les ânes aujourd'hui. Certains nous faisaient aller en Germanie, c'est un jeu de mots, pour un petit quai, le point-virgule. Et ils ne nous lâchaient pas avant, ces obsédés. Des fois aussi, c'était les journalistes qui descendaient, tout affolés, pour un repiquage de dernière minute. Fallait refaire toute la page juste avant le bouclage, quand ils se rendaient compte qu'ils avaient écrit des conneries, soi-disant que c'était l'information qui avait changé. Maintenant, on ne les voit plus beaucoup, à part quelques-uns qui viennent s'encanailler chez les Rouges pour profiter d'une tasse bien arrosée. Ils préfèrent téléphoner que descendre les escaliers. Il faut dire aussi qu'ils l'ont un peu mauvaise. On arrive après eux, on repart avant eux, et on est mieux payé qu'eux. C'est parce qu'ils osent pas se mettre en grève. Cela dit, question picole, certains se défendent très bien. Même si leur truc, c'est plutôt le whisky dès le matin. Alors évidemment, le soir, ils ont plus d'idées très nettes. Donc, ces rapports-là, j'ai l'impression que c'est quand même... C'est resté, non ? C'est un peu client de vérité pour...
Oui, je te disais que les correcteurs étaient les mal-aimés dans ces métiers-là, parce qu'on les appelait aussi les chieurs de virgule, parce que du temps de la typo au plomb, donc on composait des lignes blocs de la justif du journal. Donc pour une virgule, il fallait casser la ligne, en refondre une, avec le risque de rajouter une nouvelle coquille, ce qui ne manquait pas d'arriver. Donc on était effectivement les bêtes noires des typographes. Maintenant, le système est modernisé, mais lorsqu'il s'agit de porter des corrections, par exemple sur Maurras, à la mise en page...
Alors, Maurras, je précise, sont les épreuves sur papier.
Les épreuves sur papier, voilà, les dernières corrections avant l'envoi au centre d'impression. On ne se fait pas toujours très bien recevoir quand on apporte des Maurras toutes rouges et que les rotos attendent les épreuves définitives pour pouvoir tourner. Donc on est des chieurs de virgule, on est des chiants, quoi. Du point de vue de, par rapport aux journalistes aussi, ils n'apprécient pas toujours les petites modifications de style ou des tournures qu'on veut leur proposer. Pour eux, ça suffit bien comme ça. À partir du moment où ça se comprend, ça va. Mais nous, on se dit, oui, mais il y a un moment où on ne comprendra plus. Et qu'est-ce qu'on fera ? Il faut qu'on arrête cette dégringolade de la langue, de la syntaxe, parce que ça va mal finir.
Alors bon, ça, je suis absolument d'accord avec toi. Le problème, en revenant au livre, tout de même, j'y reviens, c'est que tu places ces propos, alors qu'ils sont parfaitement... Enfin, auxquels on ne peut, à mon avis, que souscrire d'une certaine manière, et qui sont parfaitement crédibles, tu les places quand même dans la bouche d'un homme qui donc finit complètement azimuté.
Oui.
Et qui finit par commettre un demi-viol, si je ne me trompe, un meurtre. Plus. Oui. Bon, et qui finit complètement fou. Et est-ce que. Enfin, ça modifie la perception de son propos. Il n'est pas correcteur. Il n'arrête pas de dire « je suis typo, je ne suis pas correcteur, je ne suis pas écrivain oui. ». Il écrit bien pour ça, un pas écrivain, d'ailleurs.
Je trouve. Pourtant, j'ai essayé de... Enfin, il écrit en demi-négation. J'ai essayé de laisser quand même quelques fautes de syntaxe, de tournure, avec des effets comiques. Mais bon, ouais. C'est la difficulté de ce jeu. Il faut quand même être lisible et agréable, tout en restant dans cet esprit-là, le personnage de Victor, je l'ai créé pour pouvoir aborder, disons, dans un certain angle, les questions que je voulais traiter. Si je m'étais mis à la place d'un correcteur de métier professionnel, ça aurait peut-être eu quelque intérêt au niveau de la défense de certaines conceptions de la langue française ou du métier, mais ça aurait eu aucun intérêt romanesque, tu vois. Donc j'ai créé ce personnage, effectivement... Au début, j'avais même créé encore plus sordide, sinistre, antipathique, et petit à petit, il s'est humanisé.
Il est plutôt sympathique.
Mais
c'est un pauvre homme, mais il est plutôt sympa.
J'ai des retours différents. Sympa. Certains le trouvent quand même assez répugnant, et d'autres finissent par le trouver attachant. Moi aussi, je finis par le trouver attachant dans sa détresse et dans son dernier tourbillon. Une idée que j'avais aussi, c'était cette personne atteinte de sertunisme, qui était la maladie professionnelle quand même des travailleurs au plomb, il ne faut pas l'oublier, qui est donc atteint dans tous ses organes, son cœur, ses poumons, ses os, où le plomb se concentre petit à petit. Donc l'idée, c'était de voir ce corps se transformer en corps de plomb, donc en caractère de plomb, avec cette idée de la perfusion qui injecte du plomb, comme le saumon dans sa linotype, injecté du plomb dans ses lettres.
Oui, c'est ce qui explique le titre aussi. Bon, je ne l'avais pas abordé, mais du plomb dans le castin, forcément, c'est un titre qui peut évoquer le roman noir, on peut penser à un polar, etc. À partir du moment où on ne sait pas trop ce que c'est qu'un castin, mais bon, ça peut faire penser à du plomb dans le buffet, du plomb dans
Voilà, c'est un peu l'idée de jouer avec ce titre-là. Le castin étant, je le définis au début du livre, comme le petit compartiment dans les grandes cases de caractère du temps de la type au plomb. J'ai eu du mal à imposer ce titre-là à mon éditrice, qui le trouvait trop technique.
Mais pourtant, il est excellent. Il est excellent parce qu'il sonne bien, et puis de toute façon, c'est expliqué, et puis de toute façon, ça ne me semble pas de poser de problème, au contraire, il dit tout.
Le deal, c'était de garder le titre en mettant la petite exergue au début pour l'expliquer. Mais il est intriguant, même pour les gens qui ne connaissent pas ce mot-là. Oui.
Non, et puis surtout, il reprend, on s'aperçoit qu'il était important de garder d'une certaine manière l'expression du plomb dans l'endroit, puisque à la fin, le héros, Victor, finit réellement... Bon, il a plombé. Son chef de service, mais au sens littéral, c'est-à-dire qu'il lui a balancé il lui a tiré dessus avec une balle à sanglier, donc
ça laisse pas beaucoup de chance. Oui.
Et elle a du plomb dans la tête, mais elle ne s'en remet pas a priori. Et lui voit son corps effectivement envahi par le plomb. Enfin, c'est quand même. Alors tu t'es amusé aussi avec Michel Audiard, si je ne m'abuse.
Ah, et Tonton Flingueur, oui. Une amie avait trouvé un joli titre, c'était le typo flingueur, pour caractériser Victor d'ailleurs. Oui, j'ai voulu jouer avec cette ambiance particulière des films des années 50-60 en France, qui regarde en rentrant du travail avec sa vieille mère grabataire, pendant que ses trains électriques tournent autour de lui. C'était une ambiance que je trouvais un peu... Et puis il y avait cette phrase à la fin, moi quand on m'en fait trop, je correctionne plus, je dynamite, je disperse et je ventile.
Oui,
je correctionne plus, oui, ça me paraît, c'est bien raisonné avec son métier.
Oui, et puis entre correctionner et corriger, je veux dire, il y a une proximité.
Oui, il y avait quelques échos comme ça, comme avec sa lubie, sa manie des locomotives. Je voulais lui trouver une petite manie, un vieux garçon... maniaque,
ouais.
Donc ça devait être ou les timbres poste, ou les capsules de bouteilles de champagne, mais l'univers des locomotives avec celui des linotypes, des rotatives paraissait mieux se tisser dans le livre. Donc c'est un ferrovipate, c'est comme ça qu'on appelle cette manie des locomotives miniatures.
Je serais comme curieux de savoir si tu as des retours, je ne sais pas moi, la perception qu'il y a eu dans ton milieu professionnel de cela. Parce qu'après tout, tu fais parler un homme qui est à moitié fou, qui profère quand même quelques propos assez durs vis-à-vis de ses collègues, je dirais pas, puisque enfin des gens qui travaillent avec.
Oh, tout le monde en prend pour
tout le monde en prend pour son grade. Oui. Et est-ce que les gens ont fait la part des choses, ou bien est-ce que tout d'un coup on t'a pris pour la Zoé Shepard de Sud-Ouest?
Voilà, oui, c'est un terme qui est revenu dans les conversations de cantine, je crois. Écoute, il y a des gens qui ont plus ou moins d'humour, donc effectivement, chacun a essayé d'y reconnaître qui pouvait être qui là-dedans, alors que ce n'est pas ce jeu-là qu'il faut jouer. Les personnages sont composés effectivement de personnes que j'ai pu croiser, mais ce n'est pas une personne qui est dans tel ou tel personnage. En général, il a été assez bien accueilli par mes collègues en particulier, alors qu'ils en prennent aussi pour leur grade. Les journalistes aussi, ils sont traités quoi de...
Ils sont pas mal, ces enfoirés
de plumitifs, je crois. Les syndicalistes, ces fumiers de syndicalistes qui ont vendu la classe ouvrière en 68.
Oui, ce qui est assez drôle, parce qu'il est quand même... Enfin, c'est donc un homme qui sombre dans la folie. Et puis, on le voit tout de suite relativement comme un pauvre homme, disons. Enfin, il vit avec sa mère, qui est grabataire. C'est pas ça qui fait le pauvre homme. Je veux dire, les rapports avec sa mère sont assez pathétiques. Bon, la seule chose qu'il lit, si je ne m'abuse, c'est la revue des collectionneurs et la vie du rail, en dehors des faire-part. Ce qu'on appelle les carnets sont les faire-part de taux de mariage, soit de décès. Bon, en nombre, évidemment, il y a beaucoup plus de faire-part de décès que de faire-part de... joyeux, disons. Bon, mais donc ce pauvre homme qui de plus est en sombre dans la folie assez rapidement, et puis ça s'accélère très vite vers la fin, est quand même capable de diagnostic, si j'ose dire, d'un regard assez, en tout cas, lucide ou pas. Enfin, je ne sais pas si, mais en tout cas, c'est une vision construite et assez cohérente qu'il a de sa condition professionnelle. Mmh.
Je crois que c'est le privilège des innocents d'arriver à dire certaines vérités. Ça n'a pas de confusion. Parfois, il a des traits assez saillants sur et des réflexions très pertinentes sur ce qui vaut autour de lui. Oui.
Parce que ça passe très bien dans le livre, et ça c'est quand même quelque chose d'étonnant, effectivement, c'est que, au fond, la seule voix que nous entendions, c'est celle du héros qui écrit, qui tente, sans vraiment de succès, d'écrire son article pour le journal Le Marbre, qui est le journal du syndicat, donc ce devrait être un échec. Et en fait, ça fait un livre... cette succession d'échecs, je veux dire, c'est 10 ou 12, enfin, il y a 13 chapitres en tout, 17 chapitres, parce qu'ensuite ça s'accélère vraiment. Oui. Mais ces chapitres, avant le naufrage final dans la folie, sont finalement constituent plutôt un succès d'écriture.
Je te remercie.
Non, mais je t'en prie. Mais. C'est un paradoxe assez agréable à relever, qui n'en existe pas. Oui, un paradoxe. Voilà, cela dit, comment vois-tu les choses? Parce que on a quand même l'impression, effectivement, je ne sais pas si... C'est un peu on a quand même l'impression que tu entonnes, via ton héros et ce livre, d'une certaine manière, le chant du cygne des métiers du livre, et en tout cas de la correction. Qu'en est-il? Enfin, que je sache, il y a encore, même si c'est difficile à défendre, même s'il y a une tendance à économiser, même s'il y a une tendance... Écoute, tu es quand même dans un journal où il y a des correcteurs.
Mais nous sommes le dernier journal de la PQR, la presse quotidienne régionale française, à avoir encore un castin. Nous sommes 9, il y a 2 ans nous étions 2 fois plus, et il y a 20 ans il y avait 40 correcteurs. Toutes les éditions ont été relues et bien relues. Il y avait un réel souci de fournir aux lecteurs, aux clients, donc un produit bien ficelé à tous les niveaux, au niveau de la qualité rédactionnelle, comme au niveau de la présentation, de la forme. Donc on sait les problèmes que connaît la presse en France. On sait qu'elle est tenue à bout de bras par l'État et ses subventions. Toute aide confondue, je crois que ça monte à près d'un milliard d'euros par an quand même. Hein.
Donc, c'est ce que tu sais.
On a entendu ça il n'y a pas longtemps. Donc aides qui sont données aussi avec sous certaines conditions de réduction des coûts, etc. Ouais. Donc, et des réductions de coûts qui, dans les années à venir, vont vraiment être sévères. Donc il est possible qu'on coupe vite les branches qui ne sont pas rentables, considérées comme inutiles, et les premiers, c'est toujours les correcteurs. Même dans la presse quotidienne nationale française, il n'y a plus énormément de journaux. Libération a fermé son dernier castin il y a 2 ans, je crois. Et Le Monde, Figaro a divisé par 2 le nombre de correcteurs. Je crois que cette tendance va s'amplifier. Je ne vois pas... Avec la conscience que j'ai de l'époque et de son évolution, je ne vois pas comment on pourra faire machine arrière. Je crois que les choses vont se dégrader de plus en plus, au niveau de la qualité de l'écrit comme de la présentation. Et de toute façon, il n'y aura plus grand monde pour pour contester cette perte de qualité et s'en rendre compte.
Mais c'est quand même un phénomène assez curieux, parce qu'en même temps, on n'a jamais entendu autant les patrons de presse, enfin en tout cas chez nous, si je ne m'abuse, on l'a entendu en réunion, parler de se tourner vers les milieux étudiants, vers l'enseignement, etc., d'ouvrir la presse, d'introduire la presse à l'école, etc.
Oui, mais ça,
il y aurait peut-être une politique de qualité à jouer.
Là, je pense qu'il se... Oui, ça serait, il se tournerait vers la presse, disons, Internet, sur le web, au niveau de la presse papier. On sait bien, avec les enquêtes, ce que les jeunes ne lisent plus de journaux, ce sont les vieux, à partir de notre génération, qui lisent encore un petit peu de papier. Donc effectivement, il y aura peut-être quelque chose à jouer sur le web, mais quand tu vois la qualité des écrits sur Internet, je les vois mal engager des correcteurs pour améliorer le niveau de ces pages.
Donc en fait, d'une certaine manière, la vision de ton héros est un peu la tienne. Je précise, j'insiste un tout petit peu, parce qu'effectivement, il est tellement caractérisé.
Oui.
Je ne vais pas dire qu'il est caricatural, mais il est caractérisé. Lui offre des visions, à mon avis, un peu caricaturales quelquefois, même si de certaines de ses collègues, enfin, quand il est défini individuellement.
Non, parce que là, tu vas me mettre vraiment très mal avec certains clavistes du journal qui...
Non, il est cohérent. En fait, ton personnage est cohérent. Il est écrit comme un cinglé.
Que les clavistes s'amusent avec lui en lui faisant son avis d'obsèque en particulier, et lui qui est ronchon, aigri, misogyne, pense qu'elles font exprès de laisser des fautes, alors que c'est du délire total, quoi. Mais bon, je veux dire que de me glisser dans la peau de ce Victor, qui est simple d'esprit, idiot, la facilité avec laquelle je me suis glissé me fait poser certaines questions sur moi-même aussi. C'est assez troublant de la facilité avec laquelle je me suis mis dans la peau d'un simple d'esprit, d'un idiot. Donc il y a sans doute du Victor en moi.
Parce que je voulais dire. Je voulais simplement te poser la question.
Sur ses positions.
Savoir si tu reprenais en gros à ton compte des positions que tu fais exprimer par quelqu'un qui est quand même un peu amoindri.
Évidemment, bien sûr, lui et Jean-Pierre en particulier, oui. Le personnage du vieillard que j'ai composé à gros traits, parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans une définition très subtile des personnages. Donc c'est Victor qui endosse quand même la grande part principale du discours, entre guillemets, quoi, oui, mais.
Oui.
J'ai cette vision assez sombre de l'évolution de cette fin de civilisation, oui, mélancolique, dont je parlais au début, que je compense par quand même une certaine forme d'humour et de comique.
Oui.
Je crois qu'il n'y a que le rire qui peut nous sauver aujourd'hui.
Oui.
Tous mes crayons qu'on puisse être.
Ce serait presque une conclusion un peu triste. Je vois, cela dit, parce qu'il faut sans doute faire la part des choses, je vois que tu as posé à côté de toi un petit livre que je goûte fort, de Valérie Larbeau,
oui.
Qui s'appelle « La lettre aux imprimeurs ».
Oui.
Et,
si
je ne m'abuse, il y a un ou deux passages.
Ah oui, j'avais préparé...
Je ne sais pas si tu as envie de dire quelque chose de ce petit texte ou pas.
Oui, j'avais envie, dans une discussion sur le métier de correcteur, de dire quelques mots aussi sur notre travail, donc en correction de presse comme en correction d'édition, sur notre doute permanent qui nous habite quand on a posé une correction, comme la langue française est assez complexe et subtile, toute entorse à la syntaxe peut aussi être considérée comme une tournure de style. Donc la question, avant de passer le feutre rouge ou le curseur sur un accord ou un mot qui nous paraît contraire aux règles, c'est de se demander s'il y a volonté de l'auteur ou pas. C'est la question, je pense, que doit se poser tout correcteur avant d'intervenir. Et j'ai trouvé dans ce petit livre de Valérie Larbeau une excellente illustration de ce thème-là. Je vais, pour terminer, si vous voulez vous le lire, c'est assez vite. Donc Valérie Larbeau traduisait « Ainsi va toute chair » de Samuel Butler. Il tombe sur un mot intraduisible, « insinuendo ». Le mot « insinuendo » était difficile, mais aussi excitant à traduire. C'est un pataquès. Le personnage de roman, une anglaise du peuple, une commère londonienne, qui le dit, mélange d'une manière amusante les deux mots « insinuation » insinuation », c'est l'espagnol, et « innuendo », gérondif du verbe « inuere » que l'anglais a adopté. J'ai cherché l'équivalent français de cela pendant plusieurs jours, et j'ai eu un moment de vrai bonheur quand j'ai trouvé un sui-nation qui confond ainsi deux mots, dont suin, suinté. Je l'avais écrit très lisiblement. La dactylographe avertie l'avait bien copié. Aux premières épreuves, je m'y attendais, on avait corrigé. Insinuation. J'ai corrigé en soulignant. Insuination. Seconde épreuve. Bon, on a compris. Mais je ne veux pas que ce mot reste en italique. Il ne doit pas avoir plus de relief que les autres pataquès du même personnage qui ne sont pas soulignés dans le texte et qu'il ne faut pas que je souligne dans ma traduction. J'explique cela dans une note en marge, juste en face du mot. Troisième épreuve. Tout va bien. Insuination. Je reçois les bonnes feuilles. Nom de Dieu. Insinuation. Oui, le correcteur avait passé par là et il avait corrigé ce qu'il avait pris pour une faute involontaire. Et mon travail de plusieurs jours pour trouver, pour faire cette faute, était perdu et mon plaisir gâté. N'y a-t-il pas là de quoi exaspérer un auteur? De quoi le pousser à la démence?
Voilà. Bon, je trouve que c'est très bien pour finir sur une autre.
Donc, jamais oublier que le correcteur est au service de l'auteur.
Parfait. C'est une très belle phrase pour finir.